This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Bonjour à tous, je suis Alice Haché, je vous souhaite la bienvenue dans l'empreinte. Nous allons essayer de comprendre ensemble comment les marques d'aujourd'hui s'engagent ou non pour notre planète. Chaque semaine, je reçois donc des start-upers, des PDG de grands groupes ou encore des directeurs de la RSE qui m'expliquent comment leur entreprise s'engage pour porter une révolution de l'impact sur notre planète. Dans ce nouvel épisode de l'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Sheila O'Hara, la responsable RSE d'IBM France, la multinationale américaine présente dans les domaines du matériel informatique, des logiciels et des services informatiques. Bref, une entreprise de la tech. Je suis ravie de t'accueillir dans l'Empreinte.
Merci beaucoup Alice, je suis ravie d'être ici.
Vaste sujet, en plus c'est quand même vraiment une marque qu'on connaît tous, IBM. J'imagine, face aux enjeux aujourd'hui RSE, donc à la fois sociaux et environnementaux, l'entreprise doit se transformer et en plus c'est vraiment l'intitulé de ton poste.
Oui, en fait, l'entreprise se transforme et depuis longtemps, IBM est une société qui prend vraiment au cœur les sujets environnementaux et sociétaux depuis à peu près 50 ans. On a publié notre premier rapport, en fait, RSE, en 1971.
Donc déjà, ça s'appelait déjà RSE?
Et ça s'appelait Environmental Report, oui, tout
D'accord.
à fait, tout à fait. Et on fait des actions déjà pour réduire l'empreinte, on va dire, environnementale d'IBM en tant que fournisseur et fabricant technologique, en tant qu'entreprise. On fait aussi pas mal de collaborations avec des consortiums, avec des universités, en fait, sur ce sujet pour avancer. Et on a aussi une forte unité de recherche, en fait, qui est un peu présent partout dans le monde, avec là-dedans aussi depuis quelques années une unité qui travaille sur ce qu'on appelle le futur du climat. Et là, ils vont travailler des sujets comme la séquestration du carbone, des matériaux qui puissent le faire, sur les batteries, par exemple, qui n'utilisent pas des métaux lourds. Donc, avec l'explosion des voitures électriques et tous les autres outils électroniques, en fait, qui nécessitent des batteries, on a un petit problème parce que ça utilise beaucoup de métaux lourds et leur extraction, etc., est dévastatrice, en fait, au niveau de l'environnement. Et donc, on travaille sur des sujets comme l'extraction des substances de l'eau de mer qui pourraient remplacer, en fait, ces métaux lourds.
Donc. Parce que, justement, j'allais venir à ça aujourd'hui. Rien que quand on parle uniquement numérique, c'est 4% environ des émissions de gaz à effet de serre, soit l'équivalent d'un sixième continent.
Tout
donc, c'est quand même énorme et la majeure partie de 70 à 80%, c'est la fabrication.
Tout à fait.
Donc, nous, les usages, vous nous aidez à les maîtriser. Et je pense que d'ailleurs, les entreprises tendent vers du service. Mais comment concrètement on fait? Puisqu'aujourd'hui, le GIEC est clair, il faut de la sobriété. Donc, sobriété et digitalisation, on a l'impression qu'on va devenir schizophrène. On accélère, on doit être sobre.
Ouais.
Et on doit réduire et on doit faire durer. Est-ce que tu as la recette?
Il n'y a pas de recette magique, mais il faut prendre en compte tous les angles, c'est clair. Donc, oui, cette notion de 70% de l'impact vient de la fabrication, c'est clair. Et on est en train d'essayer de trouver aussi des façons de fabriquer qui sont moins consommateurs. La réutilisation, en fait, on fait beaucoup aussi de nos machines où on réutilise, en fait, des éléments. Et sur le numérique, on a tout un projet qu'on appelle Responsible Computing, donc le computing, on va dire, responsable, et qui va couvrir non seulement la partie, on peut dire, infrastructure technique, mais aussi tout ce qui est l'éthique de l'IA, tout ce qui est la sécurité des données ou l'usage des données, et aussi l'impact, donc pour quelles raisons j'utilise le numérique, est-ce que c'est pour du bien de la société ou le bien de l'environnement. Et là, on vient aussi sur...
Mais ça, est-ce que justement, on a des règles pour ça? Parce que tout le monde peut dire, ben non, mais ça, finalement, c'est bien aussi pour l'environnement. Mais est-ce qu'il n'y a pas des règles précises qui définissent quelles sont les priorités, parce que je pense, moi, dans le podcast, mes auditeurs sont habitués, je donne mes positions, mais je ne suis pas contre l'innovation. Au contraire, je pense que l'innovation est clé.
Tout à fait.
Associé à de la sobriété. C'est-à-dire qu'on est obligé de faire les deux. On est obligé de décarboner, on est obligé d'être sobre, mais on est obligé d'innover parce qu'aujourd'hui, il faut justement trouver comment décarboner. Alors, il y a déjà tout un pendant de la biodiversité à reconstruire, etc., qui est hyper important. Mais je pense qu'on a besoin d'entreprises comme vous pour innover, justement, et innover de façon verte et vertueuse.
C'est ça. Et on fait aussi énormément de travail sur cette accélération de l'innovation. Donc, on a vu avec le Covid, en fait, l'accélération de la découverte, par exemple, ou la fabrication d'un vaccin. Il y a des gens qui vont dire,
oui,
voilà, c'est
toujours,
pas bien, etc.
Oui, je vais très bien.
Mais cette accélération, il est en fait en partie grâce à des avancées technologiques. Et nous aussi, on a mis à disposition en fait des ordinateurs, on va dire très puissants, pour aider justement à trouver en fait des molécules qui vont ensemble, des simulations en fait de molécules. Tout ça, ça nécessite une puissance, on va dire, de calcul qui va accélérer en fait la découverte de nouvelles solutions. Et c'est ça qu'on fait, pareil pour les matériaux pour capturer le carbone. Comment on fait ça? On va utiliser des outils technologiques qui vont accélérer le travail des chercheurs. Donc, pour, par exemple, extraire des données des milliers d'articles ou de bouquins, en fait, qui travaillent sur un sujet, pour essayer de cibler, en fait, plus rapidement, en fait, là où ça a l'air d'être prometteur, etc.
Et comment on fait, de l'autre côté, pour décarboner ces technologies? Parce qu'elles sont hyper utile, et je pense que moi, je ne suis pas du tout contre l'innovation. On a énormément appris et on fait beaucoup de choses grâce à ça, mais comment on fait?
Ben, en fait, on fait en fabriquant aussi des chips ou des parties infrastructures qui sont plus performants, moins consommateurs en énergie. Donc, en fait, on va accélérer, par exemple, les calculs, mais aussi, on va le faire de façon que ça consomme moins en
avec de l'éco-conception, par exemple? Vous y travaillez beaucoup là-dessus?
Il y a une partie là-dessus. Mais c'est une optimisation d'usage des ressources, en fait, qui est très important. Quand on parle, par exemple, et là, je parle, là, ce qu'on utilise aujourd'hui ne sont pas forcément des ordinateurs quantiques. Donc, ça, c'est la future génération d'ordinateurs.
Il ne faut pas qu'elles soient trop futures, il faut qu'elles soient futures proches, parce qu'on a besoin d'elles dans 3 ans.
C'est clair. C'est là. Mais ce qu'il faut savoir, ces ordinateurs-là, à part la consommation pour refroidir, on va dire, le cœur de ces machines, mais ils consomment très peu, en fait, par rapport à des ordinateurs classiques.
Est-ce que IBM investit sur l'innovation dans la recyclabilité, etc., de ces matériaux?
On a déjà un projet, en fait, un programme depuis des années, en fait, qui recycle nos machines.
La totalité?
J'ai pas le pourcentage, mais je crois qu'on est à 70 à 80% en fait des matériaux.
Il faut trouver les 100%.
C'est vrai.
Ah oui, toujours plus.
Mais quand on parle de ça, donc il faut toujours en fait trouver. On va jamais, par exemple, nous notre politique chez IBM pour atteindre la neutralité carbone, c'est de passer en fait sur des énergies renouvelables.
Oui, puis surtout que la neutralité carbone, comme le dit l'ADEME, il faut arrêter d'en parler parce que c'est très compliqué.
Et on ne va jamais arriver en fait à avoir
totalement...
C'est un
peu du greenwashing.
Et donc, en fait, il y aura un pourcentage qu'on va pouvoir faire, mais il y aura toujours en fait des émissions. Il faut investir sur des solutions qui retirent aussi.
C'est la décarbonation.
Voilà. Et donc, c'est là où, justement, cette accélération de la recherche, des matériaux, des procédés, on travaille aussi sur... des sociétés, par exemple, pour fabriquer l'hydrogène vert, en fait, mais de façon beaucoup plus
super, parce que
durable.
C'est un vrai sujet, ça.
Donc, en fait, il n'y a pas de solution miracle, et ce n'est pas que la technologie qui va résoudre le problème. Il faut des hommes et des femmes qui travaillent sur ces projets. C'est aussi un domaine de transformation. Donc, on parlait depuis des années de transformation digitale. Là, on est dans une transformation durable ou une transformation environnementale.
Transition écologique, tout à fait.
Et il faut accompagner. Donc, moi, je passe énormément de temps à sensibiliser les gens sur les différents points d'entrée parce que pour chaque société ou pour chaque personne, il n'y a pas une solution. Il y a plusieurs actions qu'on peut faire. Après, il faut prioriser, il faut voir quelle action peut-être va avoir le plus d'impact et quel outil technologique ou peut-être quel écosystème ou quelle association on peut travailler avec, en fait, pour y arriver. Donc, on met en place pas mal de collaboration aussi. Donc, cette notion d'un société, il est pas toute seule aujourd'hui, comme nous, en fait, on vit pas en isolation, on échange avec d'autres personnes, des fournisseurs, en fait, ou des consommateurs, et il faut échanger, il faut collaborer, et là aussi, il faut avoir des plateformes ou des outils qui permettent cette collaboration de façon sécurisée, plus sûre, etc.
Et qu'est-ce que tu fais des outils ou des services qui, justement, n'ont pas d'intérêt ni écologique ni social aujourd'hui que tu continues à vendre? Parce que je pense qu'on a toujours en service des outils un peu, peu utiles.
On fait aussi une notion de revoir des process aussi en entreprise. Il faut questionner un peu la façon dont on fait. Après, il va y avoir des opérations pour gérer une société qui n'ont peut-être pas forcément un but environnemental ou sociétal.
Au contraire, vous dites c'est un challenge, on va les faire changer, ou vous dites non, on ne veut plus bosser avec eux?
Non, en fait, il faut traiter ça aussi. Et je vais prendre un exemple, je pense, qui traite un peu ce sujet. Une des solutions, OK, c'est une solution qui est en lien avec l'environnement, c'est une solution qui s'appelle Envisi, qui aide à faire le reporting, en fait, ou le calcul, en fait, de l'empreinte d'une société. Mais ce travail-là, c'est un travail de titan, des gens qui doivent remplir des fichiers Excel, qui va chercher des informations sur la consommation d'électricité, la consommation d'eau, en fait, la gestion des déchets, etc. Donc, on essaie de faciliter ou simplifier et automatiser un peu ces process-là pour faire en sorte que les gens brûlent moins d'énergie, en fait, en train de faire ça, et simplifier ça en société. Donc, du coup, les gens peuvent peut-être travailler sur d'autres sujets qui sont qui ont un impact peut-être plus conséquent, en fait, sur l'environnement ou sur un sujet qui est plus à valeur ajoutée, on va dire.
Et comment tu peux, justement, parce que, encore une fois, je reviens à cette fabrication, et aujourd'hui, l'usage, même s'il faut... Il faut continuer à le réduire, oui, puisqu'on doit tous être sobres, on doit tous apporter notre pierre à l'édifice, dirons-nous. Il faut qu'on soit plus sobre aussi dans notre façon de posséder. Et il faut arrêter le multi-device, etc. Comment vous, justement, entreprise qui à la fois est fournisseur, parce que vous avez des solutions, vous avez des produits aussi, comment vous faites?
Alors, nous on a plus de solutions grand public, on va dire. On a des machines qui font tourner le monde bancaire, le monde de la distribution, etc. Mais même en interne, nos outils de travail de tous les jours, en fait, les laptops, en fait, qu'on utilise tous les jours, on va prendre aussi de deuxième main en interne
Parce qu'en plus, surtout que vous rentrez dans le calcul de l'empreinte carbone de l'entreprise. Donc, vous êtes dans le scope 2 ou 3, je ne sais plus, dans le scope 3. Ouais. Dans scope 3. Donc, si vous-même, vous apportez des ordinateurs recyclés, vous réduisez même l'empreinte carbone de la société qui vous utilise.
Tout à fait.
Donc, c'est hyper intéressant.
Donc, en fait, on essaie de faire un maximum ça. On a tout un organisme en interne, en fait, qui recycle, en fait, et qui remet, en fait...
Qui reprend les parcs.
Et aussi, on essaie de faire un travail aussi sur des choses comme des voitures de fonction, parce que ça aussi, ça entend le scope 1, en fait, dans la société. Et justement, avec certains outils qu'on a, on est en train de sensibiliser, en fait, les collaborateurs sur l'impact de la consommation de fuel de leur voiture de fonction. Donc, en fait, il y a cette notion aussi.
Comment vous faites pour sensibiliser?
En fait, on peut mettre à disposition, en fait, un calcul par trimestre, en fait, de leur achat de fuel, nombre de kilomètres aussi parcourus, et l'équivalence en émissions CO2 associées.
Et justement, c'est quoi les prochains... Enfin, il y en aura toujours des challenges pour IBM, mais les prochains gros challenges pour IBM à venir, sachant que là, on doit accélérer.
Oui, les prochains gros challenges, en fait, les risques climatiques, les événements météorologiques extrêmes, en fait, à cause du changement climatique, ça, c'est un domaine sur lequel on essaie de...
C'est bien les anticiper?
C'est les anticiper et c'est calculer en fait l'impact potentiel de ces changements sur des opérations. On va prendre par exemple faire du vin à certains endroits
pour
en
l'agriculture.
France, pour l'agriculture,
génial.
Pour justement aider en fait les petits producteurs dans des pays comme en Afrique.
Tu sais que j'ai
ça.
Beaucoup d'agriculteurs qui m'écoutent. Donc, non, mais je l'ai vu récemment, donc oui. Bah, c'est trop bien de leur passer ce message-là et que vous engagez là-dessus.
Tout à fait, et en fait, on travaille, donc on a aussi un programme qui s'appelle, en fait, en anglais, le Sustainability Accelerator. Mmh. Donc en fait, c'est l'accélérateur du développement durable, et on va mettre à disposition la technologie et aussi des experts IBM. Et un des projets sur lesquels, justement, moi, je vais travailler actuellement, c'est un projet avec une société qui fait un outil qui pour mesurer le taux de nitrate dans l'eau n'importe où, en fait. Donc, c'est un petit dispositif, on va dire, un carton en papier qui peuvent faire une mesure. Et après, en fait, on prend une photo et on utilise une application qui interprète, en fait, les mesures qu'ils voient sur le carton et qui va être capable, en fait, d'aider, en fait, à détecter là où on a des pollutions de nitrate dans l'eau. Et aussi, on va intégrer aussi nos outils de météorologiques, en fait, dans cette application pour essayer de prédire, en fait, parce que certains événements météorologiques, en fait, ou des pluies, ou des fortes pluies, ou des tempêtes, etc., exaspèrent, en fait, ces sujets-là. Mmh. Et donc, on va essayer de voir, en fait, comment on peut faire, en fait, pour essayer de prévenir, pour que les gens aussi partagent des informations et qu'on remonte un peu la chaîne d'où viennent, en fait, ces pollutions. Aussi, en fait, on a d'autres choses pour des agriculteurs, en fait, pour qui gèrent mieux leur parcelle, avec aussi des données. Et quand on dit des données satellitaires, c'est pas que météorologique, ça peut être aussi la composition du sol ou le taux d'humidité dans le sol.
Pour savoir s'ils vont avoir un grand cru.
Bah, pour ça, et aussi pour dire, voilà, il faut arroser peut-être que ouais. cette partie-là
ouais,
et
génial.
Pas l'autre. Donc, en fait, on va économiser des ressources comme l'eau, on va l'utiliser plus finement, on va dire. Donc, il y a plein d'outils comme ça qui peuvent aider les producteurs ou qui peuvent aider, en fait, à essayer de gérer, en fait, des pollutions diverses et variées. On est sur plein de sujets comme ça. Et je pense que ces notions de climat, impact du climat et aussi calcul de l'impact de société, c'est là deux enjeux sur lesquels IBM essaie en fait, d'investir et de montrer que la technologie peuvent apporter quelque chose de bien.
Finalement, tu as répondu à ma première question. Est-ce que la technologie peut contribuer à la sobriété? Et oui, en fait. En un sens, tout en réduisant, par contre, continuez vos actions pour recycler, réutiliser
bien,
vous-même,
bien
être l'entreprise la plus vertueuse possible.
Le but, c'est d'optimiser. En fait, il faut optimiser l'utilisation des ressources. Il faut trouver aussi d'autres moyens de faire. On travaille aussi, IBM Research travaille sur des projets, par exemple, sur la fixation des nitrates, en fait, pour les engrais. C'est un procédé, mais qui est hyper consommateur, en fait, en énergie, en ressources. Donc, il faut revoir tout ça.
Sur l'agriculture, en fait, c'est un vrai sujet.
C'est un sujet. C'est super nécessaire. En fait, la population
du
monde...
Non, mais c'est ça, en fait. D'un côté, on a envie, on se détruit aussi avec, parce qu'avec tous les pesticides, etc.
Donc, il faut trouver... Et c'est là où, en fait, on ne pense pas forcément à la technologie et l'agriculture.
Non, et c'est...
Mais
justement,
il y a plein de choses à faire. Il faut des données, en fait. C'est des données climat, des données des terres, etc. Et après, en fait, on fait des algorithmes de risque, des calculs, des simulations.
Et cette data, comment tu fais pour la stocker de façon la plus vertueuse possible? Parce que c'est compliqué, hein,
c'est
avec
compliqué.
Les data
centers.
On a à
peu près 6 petabytes de données sur cette plateforme géospatiale et temporelle, en fait.
D'accord.
Et donc, oui, on est en train d'innover aussi sur les data centers,
ouais,
sur la façon dont ils sont
sujet,
alimentés.
Ça.
Ça, c'est un autre sujet, c'est clair. Le refroidissement, tous ces procédés-là.
Mais tu penses, je pense que je réponds à mes éco-anxieux qui nous écoutent, parce que parfois j'en fais partie, parfois je suis plus optimiste. Tu penses qu'en 3 ans, on y arrivera?
En 3 ans,
vous
je
allez
pense
y travailler.
Que...
Dites-moi
oui,
que vous allez vraiment
oui,
y travailler.
Oui, on y travaille depuis un moment. On investit énormément dans la recherche.
Je sais que les entreprises...
Et c'est... Et c'est les entreprises aussi, ils commencent vraiment à prendre... En fait, je pense qu'il y a 10 ans, c'était plutôt des gouvernements ou la réglementation...
Oui, et puis c'était limite parce qu'il fallait le faire, voilà. C'était bien de faire, c'était cool de faire de la RSE. Là, maintenant, on n'a plus le choix.
Là, on n'a plus le choix. Les entreprises commencent vraiment à jouer le jeu.
Oui, en puis fait. Parce que le consommateur, en fait, met la pression également, c'est au-delà ça. De l'État. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que presque c'est plus...
Et c'est pas que
la...
Oui,
c'est vos entreprises, parce que vous êtes en B2B,
oui.
C'est vos clients qui vous disent bah, « moi, vous êtes ça, ça va me défoncer mon empreinte carbone, donc c'est no way, moi,
oui.
Je vais prendre, je vais prendre une autre solution. » Donc, il faut que vous soyez les plus verts possibles
aussi
pour vos clients.
Les consommateurs et aussi encore plus, peut-être pas plus important, mais au même niveau, les investisseurs.
Bien sûr. Bah, bien sûr.
Les investisseurs, aujourd'hui, ils regardent ça. Et nous, en tant que fournisseurs de technologie auprès des sociétés, on nous demande, oui, de remplir des grilles d'évaluation de notre propre empreinte. C'est pour ça qu'on sait qu'on doit aussi appliquer à nous-mêmes ces procédés, en fait, qu'on essaie d'aider les clients à mettre en place. Mais donc, voilà, il faut jouer sur tous les angles, en fait. Et c'est ça où... C'est un peu compliqué parce qu'il faut gérer plusieurs projets, plusieurs axes, etc. En même temps. C'est plein de sujets. C'est hyper intéressant. Et c'est, on va dire, la responsabilité de tout le monde. C'est pas que la responsabilité d'une directrice d'RSE. Même si moi, aujourd'hui, je suis très focalisée sur ce sujet chez IBM, je fais beaucoup d'évangélisation, on va dire, en interne aussi, pour que tout le monde sache leur outil qui n'était peut-être pas mis en avant pour une raison, on va dire, environnementale ou sociétale au premier lieu. Mais il y a des cas d'usage de presque tous nos outils technologiques qui peuvent être tournés vers l'environnement ou vers un sujet du bien-être, on va dire, de la société. Et donc, il faut réfléchir à ces cas d'usage-là. Et on est là aussi pour réfléchir avec le client sur l'innovation, qu'est-ce qu'ils vont faire, les possibilités sans limite presque. Et il faut accélérer. Donc, il y a cette notion, en fait, d'accélérer l'innovation. Parce que voilà, on a plus de temps à perdre. C'est vraiment ça.
L'innovation verte et vertueuse.
Bien sûr,
l'innovation verte et pour l'humain et la planète. Moi, ce que je retiens finalement, que je n'aurais peut-être même pas évoqué comme question, c'est que bah oui, la technologie au service de l'agriculture.
Oui.
Et c'est quand même assez fort. On n'oublie pas nos agriculteurs. Hein.
Non, tout à fait. Et c'est un domaine sur lequel on est de plus en plus sollicité. Et il ne faut pas les oublier. Il faut leur donner, en fait, les moyens. Il faut leur donner l'accès à des plateformes, en fait, sur lesquelles ils peuvent optimiser leur
rendement.
Mais de façon plus vertueuse, ouais. Etc.
Les accompagner dans la biodynamie,
tout à fait,
etc.
Tout à fait. Donc, on travaille avec pas mal de sociétés qui essaient de mettre en place, justement, ces systèmes-là dans différentes géographies. Parce que cette notion de en fait, nourrir... la planète, nourrir en fait la population grandissante de ce monde, mais de façon à le faire avec la terre qu'on a et pas avoir besoin de encore faire de la déforestation ou autre, ça c'est un vrai enjeu. Donc, et c'est des sujets sur lesquels on peut apporter en fait une aide.
Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage si inspirant. Merci d'être venu dans l'empreinte. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast ainsi que chaque semaine sur thegood.fr. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. À très vite.